France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on parle d'un homme qui a passé plus de 60 ans à filmer la faute, la violence, la foi et la beauté du chaos. Un homme pour qui le cinéma n'est pas un métier, mais une manière de respirer. Un homme qu'on ne présente plus, mais qu'on découvre autrement dans un documentaire exceptionnel signé Rebecca Miller, disponible sur Apple TV+. Son titre dit tout, Monsieur Scorsese. Dans ce film, Martin Scorsese donc revient sur toute sa vie, depuis Little Italy jusqu'à Killers of the Flower Moon, en passant par ses démons, ses triomphes, et ses doutes aux côtés de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Steven Spielberg ou ses amis d'enfance, Marty dit tout. Pour célébrer ce document exceptionnel, je me suis dit que c'était le moment idéal pour consacrer une émission à celui qui est sans aucun doute le cinéaste qui a eu le plus d'impact sur ma cinéphilie. Et pour en parler, j'ai la chance d'être entouré de deux passionnés de cinéma et de pop culture, Jean-Baptiste Toussaint, youtubeur, créateur de la chaîne YouTube Telle Forme de Clic, qui décrypte le cinéma avec humour et précision. Bonsoir Jean-Baptiste.
Salut Midi, ça va ?
Très bien. Et Yael Sadat, journaliste et critique qu'on retrouve notamment dans Sofilm et les Cahiers du cinéma et qui avait co-réalisé le documentaire Martin Scorsese, l'Italo-Américain sur Arte. Bonsoir Yael.
Bonsoir.
Alors ce soir, on va remonter le temps avec Marty, de Little Italy à Hollywood, du péché originel à la rédemption, de Taxi Driver à The Irishman, parce qu'à 82 ans, Scorsese nous rappelle que le cinéma, c'est pas juste raconter des histoires, c'est croire qu'elles peuvent nous sauver. C'est parti pour une heure à la régulière.
France Inter. Régulière, Mehdi Maizi.
Alors, vaste sujet que celui de Martin Scorsese, le documentaire dont je parlais qui vient de sortir dure 5 heures passionnantes. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir tout résumer aujourd'hui. Il y a énormément de sujets, énormément de films, bien sûr, énormément de périodes différentes, mais on peut évidemment commencer avec le commencement, c'est-à-dire New York, c'est-à-dire Little Italy. Et Yael, toi qui t'es beaucoup intéressé au sujet, qui lui a consacré un documentaire, comment est-ce que son enfance dans Little Italy, finalement, irrigue toute l'œuvre de Martin Scorsese?
C'est vrai que tout est presque déjà en place dans ce quartier de Little Italy, donc le Lower East Side à New York, puisque en fait, il est dans une sorte de bulle, alors évidemment italo-américaine, puisque c'est là qu'est concentrée la communauté et d'autres communautés irlandaises, juives, cubaines, enfin voilà. Et dans cette espèce de bulle communautaire, minoritaire, il est aussi dans une bulle de à la fois de religion, de cinéma. Et j'allais dire que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait sa première salle de cinéma, c'est l'église.
D'ailleurs, on sait qu'il aurait pu être prêtre, hein. Il se distinguait.
C'était son rêve, ouais. Effectivement. Il était enfant de cœur, il se destinait, il rêvait de devenir prêtre un jour. Et en même temps, il découvre des films comme C'est pas un enfant très sportif, on lui interdit le sport à cause de son asthme. Il est assez enfermé comme gamin et son rapport au monde, c'est la lucarne. La lucarne, alors, du grand écran, de la télé, et puis de la fenêtre. Laquelle il regarde le monde et New York qui grouille en bas. Et ça, on le reverra dans ses films très souvent, d'ailleurs, des personnages souvent jeunes qui découvrent le monde, comme dans Les Affranchis, on les voit postés à leur fenêtre.
Alors, Jean-Baptiste, c'est vrai que Martin Scorsese, il commence à faire du film des années 60, bien sûr, puis les années 70, c'est là où les gens le découvrent réellement, notamment quand il commence à faire un cinéma qui lui ressemble vraiment. C'est quelque chose que le documentaire montre bien, comment il passe d'un réalisateur qui même fait quelques films de commande à quelqu'un qui va commencer à imprégner son cinéma, notamment évidemment avec Mean Streets, après avec Taxi Driver. Toi, à quel moment, quel regard t'as sur ces films-là qui évidemment s'inscrivent aussi dans une forme de nouvelle Hollywood? C'est les premiers films de Coppola, bien sûr, de George Lucas, de Spielberg, de Palma et de Scorsese. Comment toi, tu regardes un peu cette période souvent qui est vue comme une période dorée?
Justement, son début de carrière, il est intéressant parce qu'à la base, lui, il est fasciné par la nouvelle vague française, par la nouvelle vague italienne. Et c'est un peu ce qu'il a envie de faire comme cinéma. Mais quand il arrive à Hollywood, il se rend compte qu'effectivement, il a des films de commande. Il faut bien commencer, il faut bien faire des films. Donc, il fait un film avec Roger Corman, qui est un producteur assez connu dans le monde des films un peu de série B, comme ça. Donc, il fait Bertha Boxcar, qui est un film qui lui prend beaucoup d'énergie, qu'il fait avec passion, mais qui est assez mal reçu.
Oui.
Et il a eu la chance au départ d'être accompagné par John Cassavetes, qui
joue un rôle important, et on le voit dans le documentaire.
Bien sûr. Ouais. Et qui a beaucoup compté dans sa carrière, et puis qui l'a poussé malgré l'échec, on va dire, de ce film, Bertha Boxcar, qui lui a dit, voilà, t'as passé un an à faire ce film-là qui te sert à rien, maintenant fais des films qui te ressemblent. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à se dire, ok, le plus important maintenant, c'est de faire des films qui me ressemblent. Il a fait Mean Streets.
Et c'est là qu'il sort en 72, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est dans cette...
C'est 73.
Et finalement, en fait, on dit toujours que c'est bien de commencer avec un premier film dans lequel on parle de choses qu'on connaît, en fait. Et là, il savait tout, il connaissait tout. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est super dans le documentaire, c'est qu'en fait, le personnage de Bob De Niro est inspiré par un pote d'enfance qu'il avait et qui est assez fantasque. Pour moi, c'est un des meilleurs moments du documentaire,
absolument,
d'ailleurs. Et voilà, et on adore ce genre de perso, quoi.
Absolument. Le personnage donc de Johnny Boy, interprété par Robert De Niro, qui est inspiré d'un ami d'enfance qu'on voit dans le documentaire. Ça, c'est Mean Streets. Et puis, 3 ans après, il y a évidemment Taxi Driver, toujours avec Robert De Niro, c'est leur deuxième collaboration, qui aura la Palme d'Or à Cannes. Et évidemment, cette réplique mythique.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
Au panthéon des répliques les plus connues, les plus parodiées, les plus pastichées, elle est en figure en bonne place, donc c'est une improvisation hein, de Niro. Est-ce que, je t'en prie, vas-y Jean-Baptiste.
Non, je voulais juste dire deux choses sur cette réplique, parce que finalement c'est une réplique assez culte.
Oui.
Il y a une légende qui dit qu'en fait cette réplique elle vient de Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen, absolument.
C'est ça, De Niro était à un concert de Bruce Springsteen et très souvent le public redemande. C'est une sorte d'habitude dans les concerts de Bruce Springsteen, il poursuit le concert comme ça pendant des heures et en fait le public était là genre on veut une autre chanson, you're talking to me, il jouait ouais. Un peu avec eux, De Niro a vu ça, il a eu l'idée. Et récemment j'ai lu une interview de Vincent Cassel parce que finalement cette réplique
qui
elle est aussi associée
à la haine.
À Cassel dans La Haine, et en gros Cassel disait, vous savez, je vais vous dire la vérité, je pensais pas à cette scène au moment de l'impro. C'est dire à quel point elle est dans l'inconscient collectif ouais. Des gens qui aiment le cinéma.
Bien sûr, complètement. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là que Martin Scorsese accède à la reconnaissance sociale, en tout cas que c'est plus uniquement un jeune réalisateur indépendant, mais là il y a une palme d'or avec un film très important aussi dans ce qu'il raconte de l'Amérique post-Vietnam, évidemment. C'est là où il se passe quelque chose de différent pour lui.
Oui, j'allais dire presque un virage à 180 degrés. Il y a quelque chose comme ça, parce que à la fois, oui, c'est la palme d'or à Cannes, contestée, mais enfin c'est quand même la palme d'or.
Contestée à l'époque, oui.
Oui, parce que le film est extrêmement violent. Ouais. Et c'est pas la même violence que dans ses précédents films. Ça va encore plus loin. C'est un film sanglant. Enfin, pour ceux qui se souviennent du climax, du final, c'est dantesque. Mais c'est un film qui surprend parce que autant il revient à New York après Alice n'est plus ici, qui était un petit virage vers l'Ouest. Ouais. Il revient, mais c'est pas Little Italy. C'est un personnage Travis Bickle, donc De Niro, qui n'est pas spécifiquement italo-américain. Il s'appelle Bickle.
Exactement.
Et c'est un personnage inquiétant, qui est un chauffeur de taxi qui a fait la guerre, qui en tout cas qui dit avoir fait la guerre, on n'en a même pas la preuve.
C'est vrai.
Et qui devient fou, qui bascule dans la folie de plus
qui
en plus.
Qui veut nettoyer la ville.
Qui veut nettoyer la ville comme un justicier, à la façon de ce que les Américains appellent un vigilante. Il a des opinions qui sont extrémistes, voire racistes,
tout
carrément racistes. Il y a des plans qui le montrent. On bascule dans la psyché de ce mec et on voit que c'est pas très propre. Et alors les gens se disent, ce type, ce Martin Scorsese qui a fait entrer une minorité à Hollywood, les Italo-Américains qui avaient quasiment pas voix au chapitre, bon, il y a Le Parrain juste avant, mais il fait partie des gens qui ont imposé un cinéma progressiste, féministe avec Alice n'est plus ici, tout à coup il nous fait un film qui est presque solidaire avec ce personnage qui est pas recommandable du tout.
Exactement.
Et donc, oui, à la fois il y a une reconnaissance et en même temps on se dit, c'est comme s'il enterrait le cinéaste social qu'il était en train de devenir.
Bon, alors, évidemment, je t'en prie, vas-y.
Non, et puis Taxi Driver, c'est aussi le triomphe de Paul Schrader, qui est le scénariste du film, et qui est quelque part un peu l'alter ego dans l'ombre de Martin Scorsese.
Et qui partage un peu avec lui cette passion aussi pour filmer justement le côté sombre, la noirceur de l'âme humaine dans le documentaire. Scorsese dit aussi à quel point parfois il s'est complet dans le péché. Il aime aussi ça, il est partagé entre évidemment le côté pieux et puis le péché. Alors quand on parle de Scorsese, évidemment la musique est très importante et il y a un groupe qui est sûrement plus important que les autres, ce sont les Rolling Stones, et donc je vous propose qu'on écoute tout de suite Gimme Shelter, un des morceaux les plus récurrents dans la filmographie de Martin Scorsese. On a tout de suite plein de scènes en tête, on s'écoute ça tout de suite. Thank you. Jimmy Shelter des Rolling Stones, probablement un des morceaux préférés de Martin Scorsese.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Et Martin Scorsese est donc le sujet de l'émission du jour, car il y a ce documentaire donc, qui est sorti sur Apple TV+, qui s'appelle Mister Scorsese, et qui retrace brillamment sa carrière. Et donc on a commencé évidemment à parler des années 70, qui est une décennie importante pour le cinéma tout court, pour le cinéma américain et pour Martin Scorsese. Et puis, après notamment Taxi Driver, il y a ce projet New York, New York, qui est une, forme, qui est une comédie musicale avec Robert De Niro, Liza Minnelli, qui est un flop au box-office et qui est un film un peu bancal aussi, même si moi je lui trouve énormément de qualité. Mais on sait et on comprend aussi dans le documentaire à quel point Martin Scorsese était dans les excès, notamment dans la drogue, au moment du tournage de ce film et de la conception de ce film. Et puis après, il y a un film au début des années 80 qui figure un peu comme une forme de résurrection, peut-être personnelle et artistique, c'est Raging Bull.
Your life, look at you. She really did some job on you. You know how fucking nuts you are. Look what she did to you.
You fucked my wife.
What?
You fucked my wife.
How could you ask me a question like that? How could you ask me? I'm your brother. You ask me that? Where do you get your balls big enough to ask me that?
Just tell me.
Bon, ça aussi, hein, c'est une autre réplique extrêmement mythique et connue. Donc, dans extrait donc, de Raging Bull, ce dialogue entre Robert De Niro et Joe Pesci. D'ailleurs, la première fois qu'on les voit à l'écran, tous les deux. Est-ce que c'est ça? Donc, c'est un film, évidemment, sur l'histoire de Jack LaMotta, qui était une idée de Robert De Niro, que Martin Scorsese ne voulait pas vraiment faire, et puis finalement, il s'est laissé avoir. Est-ce que c'est ça aussi qui, quelque part, pas dire sauve la carrière, mais le remet sur pied, Yael, ce film-là?
Oui, parce que c'est effectivement c'est De Niro qui lui apporte quasiment à son chevet et dans cette histoire qui est a priori très loin de lui, hein, je le disais, c'était pas un enfant très sportif, ouais. Il va faire une sorte de récit de chute qui a quelque chose déjà de très christique. Alors, il va aller encore plus loin dans l'exploration de des vies christiques, mais
il y aura notamment la dernière tentation du Christ.
Voilà. Après. Mais là, on est déjà dans le corps mutilé, la souffrance, etc. Et dans l'idée de filmer encore une fois. Quelqu'un de cette communauté sicilienne, en tout cas italo-américaine, et sans l'épargner. C'est-à-dire qu'il y a presque une façon de penser contre sa propre communauté, d'aller chercher aussi quelque chose de macho chez ce personnage. Voilà, d'aller chercher. C'est quand même quelqu'un qui est violent contre les autres et contre lui-même. Et c'est presque l'antithèse d'un autre boxeur italo-américain célèbre qui est Rocky.
Oui.
Et c'est comme si, encore une fois, là, il retournait en arrière après avoir fait entrer et défendu son identité, on va dire, au cinéma et dans le champ mainstream. Tout à coup, il fait le contraire. Et en même temps, c'est une manière de complexifier, en fait, les personnages.
Oui, exactement.
C'est ça qui est intéressant avec le film.
D'autant que ce qui est intéressant, c'est que Raging Bull se fait un peu grâce à Rocky II, parce que c'est Irving Winkler qui produit le film. Et en gros, Winkler dit, on fait Rocky II si vous faites Raging Bull. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, on a deux façons de filmer la boxe. Une façon de filmer la boxe pour un public très massif, populaire, et une façon de filmer la boxe de façon plus auteur, entre guillemets. Oui. Et je trouve ça intéressant, ce parallèle entre ces deux films de boxe sortis à peu près au même moment.
Tout à fait, ouais, complètement. Dans les années 80, il y a aussi un autre film qui est très important, mais qui, pour le coup, ne va pas fonctionner, en tout cas en termes de succès, c'est La Valse des Pantins, King of Comedy, qui est un film que je trouve extraordinaire, qui est encore effectivement très très actuel. Donc c'est l'histoire donc de Rupert Pumpkin, le personnage joué par Robert De Niro, qui est fan de Jerry Lewis, qui joue dans le film, et qui donc veut lui aussi être comédien, etc., faire du stand-up. Un film qui a largement inspiré le Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se rendre compte à quel point ce film était finalement très actuel, voire même précurseur, sur le rapport à la notoriété, à la célébrité, Jean-Baptiste? Il y a quelque chose dans ce film qui est incroyablement atemporel, je trouve.
Bah déjà, c'est quelque chose dont il souffrait à l'époque, Martin Scorsese, le fait d'être reconnu, le fait d'être devenu célèbre, parce que et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que dans sa carrière, on se rend compte qu'il a souvent été protégé par le FBI. C'était l'époque où Hinckley a tiré sur le président.
Hinckley, c'est par Taxi Driver.
C'est ça. Hinckley qui était fasciné par le personnage de Travis Bickle, et surtout par Jodie Foster. C'est un type qui a pratiquement harcelé Jodie Foster toute sa vie. Et en fait, à partir de ce moment-là, et à partir du moment où Lennon a été tué, Scorsese a commencé un peu à flipper, quoi. Il restait cloîtré chez lui, et puis il avait ce truc de se dire, moi aussi je pourrais me prendre une balle, parce que il avait aussi un cinéma engagé. D'ailleurs, dans le documentaire, Spike Lee le dit, il dit, Scorsese, c'est My Man, parce que c'est un mec qui n'a pas peur de montrer ce qu'il a envie de montrer, n'a pas peur de montrer la réalité, quoi. Exactement. Et forcément, ça dérangeait. Tout à l'heure, tu parlais de la dernière tentation du Christ, ça dérangeait beaucoup de personnes. Et donc, voilà. Et donc, à un moment donné, lui, il a eu du mal avec ça. Et ce qui est intéressant avec La Valse des Pantins, c'est que lui, il a pris aucun plaisir à faire ce film. Il voulait pas faire ce film. Et sur le tournage, il y allait un peu entré dans la pâte. Parfois, il arrivait en retard sur le plateau, alors que c'est lui le réalisateur.
Exactement.
Et au final, le film a été mal reçu. Aujourd'hui, on le considère comme un grand film, mais à l'époque, c'est un film qui, lorsqu'il est sorti, a été mal reçu, malheureusement.
Yael ?
Ouais, c'est un film que j'adore, qui en un sens presque se commence là où Raging Bull se termine, puisque le personnage de Raging Bull devient comédien.
C'est vrai.
Un comédien loose, complètement nul, qui fait pas rire, qui se fait insulter, etc. C'est ce qu'est Rupert Pumpkin. Enfin, c'était un comédien raté, mais qui accède à la célébrité, mais pas de la bonne façon.
Exactement.
Et donc, c'est la corrélation entre les deux films est superbe, moi, je trouve.
On continue tout de suite à parler de Martin Scorsese. Il y a quelque chose qui est intéressant avec ce réalisateur, c'est que parfois, pour le caricaturer, on dit que voilà, c'est le cinéaste des gangsters. Celui qui... Finalement, il n'y a pas tant de films de gangsters que ça. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il y a Mean Streets qui est une première incursion là-dedans, mais même là, c'est des petits voyous plutôt que des gangsters. Et puis, je crois que c'est surtout à cause de Casino et bien sûr des Affranchis dans les années 90 où on a un peu cette image-là, sûrement aussi à cause de la proximité avec Robert De Niro. Mais je pense qu'il y a vraiment eu un choc avec le début des années 90 avec les Affranchis.
Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Pour moi, être gangster, c'était mieux qu'être président des États-Unis. Même avant le jour où je suis entré au dépôt des taxis pour un petit boulot après l'école, je savais que je voulais devenir comme eux. J'ai su tout de suite que ma place était là. Ça voulait dire être quelqu'un dans un quartier où les gens étaient rien. Ils n'étaient pas comme tout le monde. Eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se garaient en double fil devant une bouche d'incendie et on leur collait jamais de PV. En été, quand ils jouaient aux cartes toute la nuit, personne n'appelait jamais les flics.
C'est aussi ce qui est intéressant, je trouve, avec la manière de filmer les gangsters, notamment dans les Affranchis, c'est qu'on n'est pas complètement dans le glamour comme le parrain. Il y a vraiment une forme de proximité avec ces personnages-là qui, effectivement, sont quand même des mecs de quartier. D'ailleurs, qu'on retrouve aussi, je trouve, cette manière de les peindre dans Il était une fois dans le Bronx, la première version de Robert De Niro. Mais elle vient d'où cette espèce de confusion sur le fait que Scorsese serait un réalisateur, le cinéaste des gangsters, Yael, alors que finalement, c'est pas quelque chose de si présent que ça dans son cinéma.
Alors, c'est vrai, mais en fait, je dirais, c'est le cinéaste des gangs, tout court, en tout cas des bandes.
Oui.
Puisque déjà, donc, Mean Streets, c'est des gens qui sont au bord, et dans Who's That Knocking at My Door, son premier film, oui, fait à Little Italy, alors qu'il est encore étudiant quand il fait la version court-métrage, enfin bref. Il a cette fascination pour les bandes, les gangs de garçons qui vient du cinéma italien aussi. Les Vitelloni, par exemple, c'est une de ses références, et c'est des bandes de garçons désœuvrés. Et finalement, oui, dès Les Affranchis, il ne serait-ce pas de faire ça, même dans des films qui ne sont pas des films de mafia, comme Le Temps de l'Innocence, par exemple, qui a priori n'a rien à voir. Il y a aussi une histoire de société avec ses codes, avec son langage codé, quelque part. Voilà. Quand on voit le film, on se dit, tiens, finalement, un type qui filme si bien la mafia, c'est pas étonnant qu'il fasse ça si bien. Et Killers of the Flower Moon, plus récemment, c'est pas des mafiosi, mais c'est une mafia quand même.
Oui, oui.
À l'ouest, c'est simplement, il décale le truc. Donc je pense qu'il y a cette espèce de fascination pour les bandes masculines. C'est ça, fondamentalement, qui l'intéresse.
Et Jean-Louis, tu voulais intervenir ?
Non, et puis aussi, ce qu'il aime filmer par-dessus tout, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les underdogs. Et en fait, l'underdog, c'est lui. Parce que quand Scorsese arrive à Hollywood, il est très vite, il se sent pas vraiment à sa place par rapport aux autres cinéastes. Et puis, que ce soit Travis Bickle ou alors Henry Hill dans Les Affranchis ou dans plein d'autres films encore, même dans Mean Streets, le personnage de Robert De Niro, il filme des underdogs. Donc, underdog, ça veut dire des types comme ça, un peu des vauriens, mais des mecs qui partent un peu de rien et qui peuvent prétendre à un grand destin, mais qui n'y arrivent pas forcément au final. Jack LaMotta aussi était quelque part un underdog. Donc finalement, il a toujours un peu filmé son identité, sa personne, à travers ses personnages.
Et puis dans ces underdogs, justement, il y a finalement rarement de happy end. C'est pas spoiler que de dire ça, mais finalement, quasiment tous les films de Scorsese se finissent mal, ou en tout cas se finissent avec une chute. C'est tout ça. J'arrive pas à penser à un film qui finit bien.
C'est ce qui filme un peu dans Les Affranchis, parce que quand on y réfléchit bien, oui, Les Affranchis, ça commence par quand même pas mal de... On a envie d'être mafieux quand ça commence. Et quand ça se termine, on veut plus être mafieux.
Ouais.
Donc tu vois, finalement,
Ça, c'est pareil même dans le Loup de Wall Street, Jordan Belfort, finalement, le personnage DiCaprio, qui connaît le succès, et puis la fin est terrible. Enfin, je veux dire, c'est tout le cinéma de Scorsese, c'est ça, c'est finalement filmer des montées, et puis des chutes, même le personnage de Sam Rustin dans Casino, c'est ça. C'est, tout son cinéma, finalement, est ponctué de montées et de chutes un peu tragiques.
Bah, dans Taxi Driver, il y a une sorte de happy end, mais on n'est pas bien certain qu'il soit, oui. qu'il soit réel ou fantasmé. Enfin, il y a quelque chose
c'est
comme
la,
ça.
C'est la scène de fin, absolument, avec cette musique d'Herman extraordinaire.
Il y a une sorte de doute quand même, mais est-ce que c'est vraiment un happy end? Mais c'est vrai que oui, le terme underdogs me fait penser aussi à Underworld. C'est vrai que, en fait, c'est des underdogs qui vont conquérir un underworld, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mafia, mais aussi bah, un monde souterrain à côté du monde dans lequel on peut réussir. Si on n'arrive pas à arriver à ses fins dans le monde ordinaire, on peut aussi peut-être y arriver dans le monde souterrain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait de ces films-là d'assez bonnes paraboles sur le rêve américain et le capitalisme. Je pense que si ça, il renoue vraiment avec le grand public en 90 avec Les Affranchis, c'est aussi parce que il trouve une manière de parler de l'Amérique de la façon la plus peut-être pertinente et basique, qui est son économie.
Oui.
Son,
voilà. Alors, tu as dit à quel point il était fasciné par le fait de filmer des bandes de mecs. Et donc, on a parfois aussi reproché à Scorsese d'avoir un cinéma très masculin, quelque part, avec peu de personnages féminins, hormis celui de la maman, etc. Alors, bien sûr, il y a Jodie Foster, tu l'as dit, dans Taxi Driver, mais qui est quand même un second rôle. Mais dans Casino, en 1995, il y a le personnage de Ginger, interprété par Sharon Stone, qui est probablement le plus grand rôle de Sharon Stone. Est-ce que c'est le plus grand personnage féminin filmé par Scorsese? Parce que finalement, c'est vrai que quand on pense à Scorsese, on pense essentiellement à des hommes et peu à des femmes, quand même.
Bah moi, je pense quand même à Alice n'est plus ici, parce qu'elle a obtenu l'Oscar. Et d'ailleurs, si je ne dis pas bêtise, je crois que...
Et Anne Burstyn, donc, qui jouait le...
Ouais. Ouais, je crois qu'il a le record de femmes nommées
c'est vrai.
Aux Oscars. Donc, quand même, c'est pas rien. Mais c'est vrai que quand on pense au cinéma de Scorsese, on pense plus à des personnages masculins. D'ailleurs, tu fais bien de parler de Sharon Stone, parce que sur le tournage de Casino, elle a très mal vécu le début du tournage.
Oui, elle l'explique dans le documentaire.
Parce qu'en fait, forcément, il y avait un peu un boys club avec Joe Pesci, avec De Niro, parce qu'ils sont potes
ils se connaissent
depuis toujours.
Bah oui.
Donc, en fait, ils traînent souvent ensemble. Et elle voyait ça chaque jour, en matinée, sur le plateau. Et après, il y a eu une sorte de réajustement où finalement, Scorsese s'est rapproché d'elle pour un peu plus l'accompagner, et puis finalement, au final, on a la plus grande performance de Sharon Stone dans un film, quoi.
Ouais. Alors, Scorsese et ses cinémas ont été énormément cités dans la musique, notamment dans le rap français, et je vous propose qu'on s'écoute tout de suite le morceau Magnum d'Angelo, Okis et Manny Days, qui a sorti un projet récemment, s'appelle Triple Crème. Énormément de références cinématographiques dans ce morceau, on l'écoute tout de suite.
Petits artistes, on tire de bien grosses ficelles. Là c'est parti, je deviens je sais pas qui, mais au moins c'est officiel. Petit rigolo, grand triste, futur apprenti beatmaker. Avait senti pousser les centristes et les charcutiers traders. Insulte les fakes, ajoute les faits, ajuste les faders. La vie c'est une pute, mais elle peut pas trop me parler de ses problèmes, c'est trop bête. Là je peux plus verser une thune, mais chat là je fais pas de clip, ou en fait c'est une pub pour Citroën. Je les suis en dressant le shit coupé, ils veulent voir ça, j'en blazer. Dans le foot depuis coupé, je m'en fous de l'argent des glazers. La vie c'est facile quand tu crois que tu peux pas débarrasser d'elle. Je trouve y'a trop de nazis, mais y'a pas assez de haine. Jamais je foire une balade, excuse tu me parlais, je sens pas la gravité. Juste, j'avance dans mon corps et juste j'ai plus de balafres. Bien ou bien, ça va?
Ouais, super, mais j'ai pas dit.
Tu fais quoi là? Moi je place pour un pote. Son blast c'est Manny Days et c'est un truc de malade.
La moustache de Magnum. Coup de chlasse, on sort le Magnum. Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum.
La moustache de Magnum.
Magnum.
Coup de chlasse, on sort le Magnum.
Magnum.
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum.
J'suis la cinquième étoile de Scolari. J'ai 99 dans Konami. Frappe d'Adriano. Okis Manny, on plie comme Ori. Gami tient la rime gratos. Des gains d'anciens tellement impeccables. Prince des régulars, des ordinaires. Rap comme personne. Classe comme Bergkamp à Saint James Park. J'suis Boldy James sur du Portichet. Enfant du vinyle et de la Motown. Dès l'honneur, ça all eyes on me. J'entends leur zumba lamentable. C'est la mota derrière un cardioïde. Façon puzzle, on t'éparpille. Flagrant silence comme Rowan Atkinson. Verbal Kim, Baze l'artiste.
baloches à l'air, ils ont même pas de kilt. On est connecté, mais y'a même pas de kit. Y'a pas de Pontiac Firebird. Quand je mets le contact, le Firebird dans mes batteries. Que des panenka qu'à mes pénalties. Magnum, la moustache de Magnum. Couch là, ça sort le Magnum. Magnum, Magnum après Magnum. Bout de classe sur la moustache. Magnum, la moustache de Magnum. Magnum, couche là, ça sort le Magnum. Magnum, Magnum après Magnum. Bout de classe sur la moustache. Magnum.
Okis, Many Days, le morceau s'appelle Magnum et l'album s'appelle Triple Crème.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Alors on parle de Martin Scorsese ce soir et finalement les années 90 de Scorsese se finissent un peu comme les années 70, c'est-à-dire avec des grands films et puis avec une fin de décennie un peu plus compliquée, avec moins de succès. Je pense aux années 90 avec bien sûr le film Kundun, mais aussi à Tombeau Ouvert avec Nicolas Cage qui est un film très intéressant, mais qui n'a pas marché, qui n'a pas vraiment été compris. Et puis, comme les années 90, finalement, enfin les années 80, ça va repartir de plus belle avec une rencontre. Et la rencontre, c'est Leonardo DiCaprio. Dans quelle mesure cette rencontre est capitale pour Martin Scorsese? Parce que c'est vrai que souvent, on se dit, oui, Scorsese, il est très important pour De Niro, mais on voit dans le documentaire à quel point De Niro aussi était important pour Scorsese. Et c'est pareil pour DiCaprio, Yal.
Ben, c'est vrai que De Niro, il tire pas sa révérence, mais enfin, il disparaît quelques années du cinéma de Scorsese.
Oui.
Et on a l'impression que DiCaprio prend le relais en étant dans une continuité. En même temps, bon, ben, c'est pas du tout la même image, quoi. C'est-à-dire, ça reste quand même un blondinet, un blond aux yeux bleus.
Oui.
Même s'il a un patronyme italien, on n'imagine pas la même chose. Il connote pas la même chose que toute la bande. Et c'est presque comme si à ce moment-là, effectivement, il ouvrait un peu son cinéma. Et c'est vrai qu'il enchaîne des films qui sont des fresques, presque qui par exemple Gangs of New York
qui voulait faire depuis très longtemps d'ailleurs.
Depuis très longtemps avec Léo DiCaprio. Et ça, c'est vrai que ça reconnecte à son désir de cinéma d'enfant qui dessinait des storyboards de péplum, des affiches de péplum et qui voulait voir grand, qui voulait raconter l'histoire du pays. Et là, il fait une sorte, lui qui a toujours aimé les westerns mais sans vraiment réussir à en faire, parce qu'effectivement, Bertha Boxcar, c'est un peu une sorte de western mais raté. Là, il fait un eastern, c'est-à-dire un western qui se passe sur la côte est à New York. Et je trouve que là, au niveau mise en scène des batailles, tout ça, il s'avère très très fort. Et c'est aussi grâce au véhicule, comme on dit, au vehicle, comme disent les Américains, les Hollywoodiens, Léo DiCaprio.
Qui permet de financer des films parfois très compliqués à financer,
Totalement.
Comme Gangs of New York, qui est un film extrêmement cher. Et puis aussi comme Les Infiltrés, ce remake Internal Affairs, qui finalement va permettre à Scorsese d'avoir enfin son premier Oscar. Quoi. C'est avec Les Infiltrés, JB.
Ouais, il avait déjà tenu l'Oscar entre ses mains parce que c'était Ellen Burstyn qui l'avait envoyé récupérer le sien, mais il n'avait pas eu son Oscar.
Exactement.
Et oui, c'est vrai que, comme tu le disais, l'arrivée de DiCaprio, ça a changé beaucoup de choses aussi parce que c'était l'acteur du moment.
Oui.
Et que, comme tu le disais, Mehdi, lui, il finançait des films sur son nom, parce qu'il y avait eu Titanic en 97 et ça ouvrait tout un pan. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec la carrière de Scorsese, c'est qu'on se rend compte qu'il a passé sa vie. Il a plein de chefs-d'œuvre, hein. Mais il a passé sa vie à courir après des financements.
Oui.
Et
tout Scorsese qu'il est.
Tout Scorsese qu'il est. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il a tant de grands films, mais il a dû batailler pour ses films. Si bien qu'à chaque fois, et d'ailleurs, t'en parlais tout à l'heure, à chaque fin de décennie, on a l'impression qu'il devait se réinventer. D'ailleurs, on comprend qu'il a souffert de ses échecs à chaque fois, parce que un chef-d'œuvre est suivi d'un flop et d'un chef-d'œuvre et d'un flop et Les Infiltrés. Et à partir de Gangs of New York et aussi Des Infiltrés, qui est un remake d'ailleurs
tout
au passage.
Fait, oui. Internal Affairs.
Ça change les choses. Et puis après, pour son Oscar, le casting est extraordinaire. Donc ça change aussi beaucoup de choses. Je crois que c'est sa première collaboration avec Jack Nicholson.
Exactement, avec Jack Nicholson, on retrouve Matt Damon dedans, Martin Sheen, Mark Wahlberg, enfin encore des mecs. Hein,
ouais, mais... Et puis pour faire un parallèle avec DiCaprio, il y a eu une blague avec DiCaprio où très longtemps on s'est dit « quand est-ce qu'il aura son premier Oscar ?»
Exactement.
Et Scorsese, c'était un peu la même chose. On comprenait pas vraiment pourquoi il n'avait pas eu d'Oscar, même s'il a eu la Palme d'Or avec
Taxi Driver.
Mais il l'a enfin eu, et puis le film est extraordinaire, ça sonne aussi comme une récompense, donc Oh, c'est totalement mérité.
Et j'ai l'impression, on en parlait un petit peu en antenne, que Scorsese, lui, son nom est toujours présent dans l'actualité. Il y a encore une aura même auprès des jeunes générations, et c'est peut-être dû notamment à un film qui a eu énormément de succès dans les années 2010, Le Loup de Wall Street.
Hey, règle numéro 1 à Wall Street. Il n'y a personne qui sait. Je me fous que tu sois Warren Buffett ou Jimmy Buffett, car personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Et les courtiers encore moins que les autres. Mm-hmm. C'est que du vent. Tu sais ce que c'est que la finance ?
Oui, la finance, c'est vendre, acheter...
Non, ça n'a rien à voir. C'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas. Ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance. C'est pas dans le tableau périodique des éléments. Putain, il n'y a rien de réel. Tu piges. Mais... Écoute-moi bien. Mm-hmm. On ne crée rien. On ne construit rien. Non.
Ce monologue, lui aussi devenu culte de Matthew McConaughey, donc vers le début du film Le Loup de Wall Street. Et c'est vrai que moi j'ai le sentiment que ce film-là aussi, il replace Scorsese dans une forme de pop culture. Non pas qu'il n'était plus dedans, parce qu'il y a eu Shutter Island avant, etc., qui a aussi très bien marché. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est comme s'il était presque plus actuel que jamais, alors qu'il est déjà à un stade avancé de sa carrière. Je trouve ce film très... intéressant, et il le replace encore dans le dans l'actualité.
Mais c'est un film qui est impressionnant déjà parce que c'est le film de quelqu'un qui a passé la barre des 70 ans et qui fait un film d'une énergie qui est absolument dingue pour filmer.
Et une liberté aussi.
La liberté et la débauche de ces gens quand même qui sont autour de Jordan Belfort, donc joué par DiCaprio. Et encore une fois, c'est un film. Encore une fois, c'est pas un film de gangsters mais de banksters. Mais c'est au fond la même chose. C'est ça qu'il essaye de raconter.
Et d'ailleurs, il le dit. Il dit, vous comprenez rien à la finance. C'est pas grave. À un moment, il y a DiCaprio qui s'adresse face caméra, qui je suis en train de vous parler de choses, vous les comprenez pas, c'est pas grave. C'est vrai que ce qu'il raconte, c'est pas tant les dérives de l'économie américaine, c'est la débauche, ça pourrait être l'histoire d'un autre milieu social finalement.
Exactement. Et c'est vrai que donc il est chez lui. En plus, c'est un aspect de New York qu'il avait pas vraiment filmé, qui est donc de plus l'Italie, mais Wall Street et toute cette débauche et ces codes mafieux, il est à la maison. C'est pour ça qu'il fait un film à mon avis qui est de son temps et qui est si fort quoi.
Toi, JB, qui parle de cinéma très régulièrement, en podcast, sur YouTube, est-ce que tu sens justement que par rapport à d'autres artistes et d'autres réalisateurs de sa génération, il est justement encore très pertinent, en tout cas auprès d'une communauté qui peut être jeune parfois sur YouTube, est-ce que tu sens que Scorsese, peut-être plus que Coppola ou que De Palma, il est encore dans les discussions ?
Moi, je pense que c'est sa force, parce que rares sont les réalisateurs qui peuvent se targuer d'avoir un chef-d'œuvre... par 5 décennies.
Ouais.
Il y en a un dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010. Et très souvent, il arrive à se réinventer avec des films qui plaisent à un jeune public. Ce que, par exemple, n'a pas réussi à faire Coppola avec son dernier film. Donc voilà, c'est en ça qu'il est fort. Et moi je pense aussi que c'est surtout un type qui est très malin, quoi. Et puis même, quand on l'entend en interview, il fait pas son âge, quoi.
C'est
il
vrai.
Est vif. Il est comme son cinéma, il est nerveux, il est là, il est présent, il est toujours un peu malin, etc.
Il participe au débat autour du cinéma, on sent que ça l'intéresse,
exactement.
Qu'il est encore très attaché à l'art du cinéma.
Et tu vois, mine de rien, alors même si c'est externe, mais mine de rien, tu sais, tous les TikTok qu'il fait avec sa fille Francesca Scorsese, ça le rend aussi attachant. Il y a un truc où tu sens qu'il est quand même connecté encore à la jeunesse, sans en faire trop et sans paraître pour un mec qui est genre le vieux qui essaie d'être ringard en voulant être jeune, quoi. Tu vois, c'est ça sa force, je trouve.
Bah ça tombe bien, justement, on avait prévu un extrait de TikTok avec Francesca Scorsese.
Star baby.
The best. 2001, Space Odyssey.
Mm-hmm.
Yeah. That one you could see on a big screen, if you can, on the Cinerama screen where I saw it originally. It even, if you get up close to your TV screen, don't move for the length of the movie. Even on that screen, of course.
It's like...
Yeah, you just immerse yourself into this thing. It's fantastic.
That's awesome.
One of the greatest endings ever.
Qui parle de 2001 Odyssée de l'espace, si je ne dis pas de bêtises, donc ce chef-d'œuvre de Kubrick, dont on parle aussi souvent dans cette émission. Et bon, évidemment, c'est Scorsese, effectivement, qui reste en contact avec sa fille, mais aussi avec une forme de communication auprès de la jeune génération à travers ce réseau social. Et ça, c'est assez fou pour quelqu'un, effectivement, de cette génération-là.
Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe. Effectivement, c'est quelqu'un qui se préoccupe d'être un passeur, plus que jamais. Il y a la Scorsese Foundation.
Exactement.
Voilà, c'est quelqu'un qui est très attaché à la conservation même des films. Et en même temps, il s'est aussi mis une partie de la jeunesse ado, quand même, au moment où il s'est mis à critiquer le nombre de films de super-héros qui sortaient, en disant, c'est pas tellement du cinéma,
c'est plutôt
des films parcs d'attractions. Il a appelé ça comme ça. Et donc, sur les réseaux sociaux, ça y allait. Il y avait des gens qui le dénonçaient, même qui écrivaient des choses comme « C'est pas parce que t'as réalisé Pulp Fiction que t'as le droit de dénigrer ce qu'on aime. » Donc, on voyait qu'il y avait une sorte de conflit de génération et de décalage. Et puis, c'est ironique parce que du coup, on en fait une sorte de bataille d'Hernani, comme ça, Scorsese qui incarnerait le cinéma, le bon cinéma, le vieux cinéma, le cinéma d'auteur d'avant, contre le mainstream contemporain, alors qu'en fait, c'est le cinéaste moderne par excellence. Et qu'il a fait comme à l'instar d'un Black Panther qui fait entrer les Afro-Américains dans le champ des super-héros. Lui a fait à peu près la même chose à Hollywood pour sa communauté, les Italo-Américains. Donc voilà, cette espèce d'opposition comme ça entre ancien et moderne, elle est fausse chez lui. Ça reste un moderne pour moi.
D'ailleurs, dans le documentaire, on apprend un truc que j'ai trouvé très très cool. Il avait réalisé un petit film, pas un grand film, mais un petit film comme ça, dans lequel il filmait un pote. Et en gros, on apprend dans le docu que Tarantino, parce que tu parlais de Pulp Fiction juste avant pour la transition, Tarantino s'est inspiré d'un des persos d'un de ses petits films,
oui.
Pour la fameuse scène où Travolta ramène Thurman et qu'il faut balancer la seringue dans le cœur pour
exactement.
La réanimer. Et en fait, tout ça est pompé sur un petit film qu'a fait Scorsese.
Ce qui prouve aussi toute la cinéphilie de Tarantino, d'ailleurs,
ouais.
Sur ce genre de choses. On est avec Jean-Baptiste Toussaint et Yael Sadat pour parler de Martin Scorsese. Alors, on parlait, alors même s'il était critique envers les films Marvel et les films de super-héros, il est plutôt en phase avec les plateformes de streaming, puisqu'il a réalisé deux films pour les plateformes de streaming, The Irishman sur Netflix et Killers of the Flower Moon pour Apple TV, même si le film était disponible pour le coup au cinéma. Est-ce que, on se posait la question tout à l'heure en préparant l'émission, est-ce que The Irishman est un film qui ne doit pas finalement se voir au cinéma pour être apprécié pleinement. Et je ne dis pas ça pour faire le boomer, mais moi, c'est un film, je pense, que je n'ai pas apprécié pleinement, peut-être aussi parce que je ne l'ai pas vu au bon endroit.
Bah déjà, à l'époque, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, moi. Je me souviens que sur Twitter, quand The Irishman est sorti, des gens séquençaient le film
oui.
pour le regarder comme une série. C'est-à-dire qu'en gros, ils faisaient des tweets en disant « Regardez-le de la première à la 30e minute, ça fera un épisode. Puis ensuite, de la 30e à la 52, ça ressemble à un deuxième épisode.
»
Et voilà. Et en fait, le film se regardait comme ça pour certaines personnes. Et moi, je me souviens que ça m'avait marqué parce que je m'étais dit, OK, on entre vraiment dans quelque chose d'assez nouveau. Et à l'époque, je me disais, est-ce que Scorsese est au courant de ça? Et est-ce qu'il est OK avec ça? Parce que il fait un film avec Netflix. Et je me souviens que c'était un débat qui m'avait, moi, assez intéressé à l'époque. Et moi, je suis pas mal de ton avis. Je pense que j'aurais quand même plus apprécié Irishman au cinéma que chez moi avec le chat qui gratte la litière toutes les 30 minutes. Quoi, tu vois.
Qu'est-ce que t'en penses de ça, Yael, toi? Parce que en revanche, pour le coup, il est toujours moderne parce que en plus, les films qu'il fait pour les plateformes ne sont pas des fonds de tiroir comme certains réalisateurs qui parfois le font pour prendre un Killers of the Flower Moon. Pardon, pour moi, est un des films qui m'a le plus bouleversé ces dernières années. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Mais voilà, il le fait aussi pour une plateforme, peut-être parce que ces plateformes aussi financent ce genre de film.
On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
Exactement.
Il a essayé de faire un film comme The Irishman, bien plus court. Il y avait des versions plus courtes qui existaient, avec des distributeurs plus classiques. Et puis en fait, tout simplement, les plateformes lui ont laissé le champ libre. Et moi, effectivement, alors j'ai jamais vu en salle, et donc j'aurais rêvé de le voir en salle. Ouais. Mais je dois dire que le fait de l'avoir, c'est le film de Scorsese que j'ai peut-être le plus revu.
Okay.
Le fait qu'il soit fait pour être dû à la maison, bah c'est devenu un film de chevet. Et je crois que c'est dû au fait aussi à la nature des films qu'il fait maintenant, c'est-à-dire que c'est des films fleuves dans lesquels on se met comme dans un, on s'installe comme dans un lit, on se laisse porter, ou dans une barque ou un lit sur une barque, je sais pas, on se laisse porter. Et en fait, on se laisse porter parce qu'il y a toute l'histoire de son cinéma. Il fait ces films-là en sachant qu'on connaît les acteurs, on connaît les visages.
Ce sont des films bilans presque.
Et c'est des bilans, des testaments, mais pas vraiment parce que c'est pas ses derniers.
Exactement. Enfin, et puis il est encore en vie, lui. On le voit, il est actif.
Voilà, et j'aime bien cette nature de film fleuve dans lequel on est chez soi aussi. Quoi.
Bon, je propose, messieurs, de quitter Little Italy pour aller du côté du Texas avec Spoon, un groupe qui a le don pour transformer la tension en mélodie, la retenue en groove. Leur morceau « Guess I'm Falling In Love » pourrait presque figurer dans la bande-son d'un Scorsese. La preuve, tout de suite. Avec Guess I'm Falling in Love. Est-ce qu'on pourrait jouer dans un Scorsese, ça, JB?
Pourquoi pas.
Pourquoi pas. Bon, on parle de Scorsese tout de suite.
Mehdi Maizi sur France Inter. Ouais,
je vois que ça t'a pas emballé, c'est pas grave. Alors, effectivement, le sujet, c'est Martin Scorsese, puisqu'il y a ce documentaire vraiment qui est exceptionnel, qui s'appelle Mr. Scorsese, donc sur Apple TV+. Scorsese, c'est énormément de choses. Évidemment, il y a plein de films dont on n'a pas parlé. Des films un peu plus mineurs, comme Hugo Cabret, par exemple, qui était en 3D à l'époque. Mais c'était intéressant de voir Scorsese qui allait là-dedans aussi. Ou un film comme After Hours, qui est aussi très important et qui, je crois, aujourd'hui, redevient un petit peu culte, quelque part, même s'il n'a pas complètement été compris à l'époque. Yael, est-ce que toi, tu vois un héritier ou une héritière dans de Scorsese, aujourd'hui, dans le cinéma actuel? Ou est-ce qu'il est trop à part?
Bah déjà, j'allais dire non, il est partout dans le cinéma actuel. On a parlé tout à l'heure de, tu as parlé de Joker, et c'est vrai que il y a cette notion. Voilà, c'est un film qui est complètement héritier à la fois de La Valse des Pantins, de Taxi Driver. Il rejoue parfois, on voit des figurants, des personnages comme ça qui portent les mêmes costumes, et l'univers de Paul Schrader aussi. Mais il y a aussi un cinéaste où il y a une influence évidente, c'est Paul Thomas Anderson, qui a été beaucoup comparé à ses débuts.
Oui.
À l'époque de films comme Boogie Nights par exemple, ouais. à Scorsese. Et je pense qu'après, il s'en est émancipé, il a tué le père. Et d'ailleurs, c'est ce que Scorsese fait aussi, c'est-à-dire il a plein de maîtres, mais voilà, John Ford, ou Rossellini, ou qui on veut, ou Cassavetes, ou Michael Powell, mais il finit toujours par ne jamais les copier et faire son propre cinéma.
Mais c'est aussi ce qui est fascinant avec le cinéma, c'est que les grands cinéastes s'inspirent toujours des cinéastes qu'ils ont aimés. Pour Raging Bull, Scorsese s'est inspiré en partie de mouvements de caméra qu'on peut revoir dans Psycho de Hitchcock. Parfois, quand je vois des films des frères Safdie, je sens aussi qu'il y a une inspiration Scorsese dans leur cinéma,
dans le rythme,
dans le côté aussi un peu nerveux et tout. Ouais. Donc en fait, il y a une sorte de tu parlais de tout à l'heure de passeurs. Il y a un peu ça dans le cinéma, quoi. De génération en génération, il y a des passeurs. Et puis, tout à l'heure, on parlait de Tarantino aussi. Sans pour autant pomper et copier, mais une inspiration inconsciente.
Est-ce que finalement, en y réfléchissant, en regardant le documentaire, en repensant à ces films, c'est pas le réalisateur, peut-être avec Steven Spielberg, qui a touché au plus de genres différents? Parce que, finalement, Le Temps d'Innocence, on parlait, c'était un film d'époque, romanesque. Cape Fear, dont on n'a pas parlé, Les Nerfs à Vif, est un film... un thriller, presque pas d'horreur, mais en tout cas un thriller qui est très différent. Est-ce que finalement, c'est pas le réalisateur le plus polyvalent de l'histoire du cinéma?
Moi, je penserais plus à Kubrick. Kubrick. À ce sujet-là, parce que moi, ce qui me fascine avec Kubrick, c'est qu'il a réussi
à faire le meilleur film de chaque genre.
C'est ça, voilà. Il a fait un chef-d'œuvre pour chaque genre différent. Ouais. Et de mon point de vue, ça n'a jamais été égalé.
Yal.
Scorsese, c'est vrai que il a fait pas mal de genres. Même le western qu'il pensait ne pas savoir faire, il l'a à peu près fait. Après, je pense que si on le retrouve dans différentes cinématographies comme ça, c'est parce que justement il est moins associé à un seul genre que à une façon de filmer, une grammaire, une énergie. Par exemple, je pense aussi à un film récent qui est le film de Michael, de pardon, Sinners.
Sinners, absolument.
Sinners.
Avec Michael B. Jordan. De Ryan Coogler,
merci. Voilà, j'avais un
extraordinaire.
Et ben, dans ce film, on voit le nom de Scorsese est revenu parce qu'à un moment donné, comme ça, où la caméra circule dans un concert, on a des gens qui dansent.
Cette fameuse scène qui retrace presque toute l'histoire de la musique noire américaine, c'est
voilà,
du Scorsese.
On a cette fluidité, et cette fluidité-là, en plus musicale, bah ça, on dit c'est du Scorsese. Et c'est devenu presque un cliché, mais c'est pas tout à fait faux.
Bon, messieurs, on discute, c'est bien, mais c'est l'heure de la question qui tue. Elle est très simple, la question qui tue. Quelle est pour vous, vous avez évidemment le droit à une réponse différente chacun, la meilleure collaboration entre Martin Scorsese et Robert De Niro? Si vous deviez n'en garder qu'une.
On va avoir la même.
Pas forcément. Pour moi, mon classement, c'est...
Alors, JB. Une, pas de classement.
Ah, c'est pas Taxi Driver.
Taxi Driver, pour toi aussi
Idem.
Ah ouais, ok. Là, c'est marrant. Alors, pourquoi?
Parce que pour moi, déjà, c'est son chef-d'œuvre. C'est son plus grand film.
Si tu devais en garder qu'un, ce serait
celui-ci. Si tu devais en garder qu'un, ce serait Taxi Driver et puis le scénario de Schrader. Et puis il y a aussi quelque chose qui me... D'ailleurs, je pense que c'est le plus grand rôle de Robert De Niro dans toute sa carrière. Et ce qui me fascine avec son film, c'est avant tout son ambiance, en fait. Il y a quelque chose d'assez aérien, comme si quelque chose... comme si ça n'existait pas vraiment.
Je pense que quelque chose qui est important, c'est la musique de Bernard Herrmann, qui est extraordinaire et qui effectivement ajoute à ce côté aérien un peu. On ne sait pas trop si tout ça est réel ou pas. En fait, il y a quelque chose comme ça dans ce film.
Et puis même les couleurs de la rue, les couleurs des feux rouges, du pavé. Il y a quelque chose moi qui m'a marqué dans le documentaire, parce que tout à l'heure tu parlais de la musique et c'est là où je trouve que Scorsese est très fort, c'est que un réalisateur, par exemple, comme Robert Bresson, détestait la musique. C'est-à-dire qu'il voulait le moins de musique possible dans ses films. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des films de Robert Bresson avec de la musique. En tout cas, de la musique, de la soundtrack, pas du score,
oui,
quoi,
bien
de la soundtrack.
Sûr.
Et lui, c'est le contraire, en fait. Lui, ça donne vie à ses scènes. Et dans le documentaire, il parle d'un moment, il dit « Quand j'étais petit, j'étais dans la voiture d'un pote, et puis il y a Fats Domino qui passait dans la voiture. » Et puis d'un coup, comme ça, dehors, on voit un SDF en train de tenir la tête d'un autre SDF et il l'aide à vomir. Et il y avait la musique de Fats Domino derrière. Et en fait, ça rendait la scène un peu touchante. Et puis la musique était en contradiction avec ce que je voyais, mais pour autant, ça marchait, quoi. Et en fait, ce jour-là, quelque part, je pense que ça a créé chez lui l'envie d'associer des musiques à des images. Et finalement, si tout à l'heure, tu parlais de ce qui différencie Scorsese des autres réalisateurs, c'est aussi sa patte, quoi. L'utilisation de la musique. Moi, je sais que de tous les réalisateurs que je connais, je crois que c'est celui qui utilise le mieux la musique. En tout cas, encore une fois, la différence entre la soundtrack et le score.
Bien
celui
sûr.
Qui utilise le mieux la soundtrack. Tarantino, ça en rapproche aussi.
Ouais. Yal, pour toi aussi, c'est une évidence, Taxi Driver. Tu souscris à tout ce qu'a dit JB.
Bah absolument. Et puis aussi, c'est, je dirais, le film qui capture l'air du temps, enfin, le zeitgeist, quoi. C'est-à-dire, ils ont tapé juste à la fois lui, Scorsese, mais De Niro, et puis Paul Schrader, enfin tous les gens qui ont travaillé sur le film, pour capturer quelque chose qui est vraiment le New York des années 70, et puis qui est bizarrement complètement ancré dans cet espace-temps et toujours d'actualité.
C'est-à-dire est-ce que c'est le plus grand rôle de De Niro?
C'est possiblement tout court le meilleur rôle de De Niro, tout cinéaste confondu, peut-être. Ouais.
D'ailleurs, on apprend un truc cool dans le docu, c'était de l'improvisation, cette scène.
Une fameuse scène.
Et lorsque De Niro répète You're talking to me, you're talking to me, Scorsese dit coupé, et il dit à un pote à côté de lui je pense que cette réplique, elle va rester. Et c'est fou de s'en rendre compte à l'instant T, quoi.
Oui, normalement, ça n'est pas possible, ouais. Ce genre de choses. Bon, messieurs, c'est passé beaucoup trop vite, mais c'était un plaisir de vous avoir. Évidemment, on redirige les gens vers le documentaire de Rebecca Miller, Monsieur Scorsese, Mister Scorsese sur Apple TV+. Et pour les gens qui vous ont découvert, s'il y en a encore et qui vous ont adoré, il y a ton livre qui est sorti en début d'année sur Joaquin Phoenix, L'angoisse est un métier, qui est sorti en début d'année. Puis JB, tu as un premier film, un premier court-métrage qui sortira prochainement. Et puis bien sûr, le podcast TFTC disponible. Tu as récemment sorti l'interview de John Woo.
Exactement.
Rien que ça.
C'est un bonheur.
Merci aux personnes qui ont préparé cette émission, Alexia Lacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Clément Berman et Guillaume Roux. Merci aux équipes web et vidéo. Lundi prochain, on se retrouvera avec Elena Nagapetian pour découvrir, redécouvrir nos émissions. Abonnez-vous sur l'application Radio France. Très bon week-end.